C'est le journal de Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, ces cadres qui n'osent pas dénoncer les pratiques illégales dans leurs entreprises. Résultat d'un sondage que France Inter s'est procuré en avant-première et qui pose la question de la protection des lanceurs d'alerte. Un collectif demande à l'Élysée d'améliorer la loi. Précision dans un instant. L'ouverture d'une enquête dans l'affaire Adèle Haenel qui accuse le réalisateur Christophe Ruggia de harcèlement sexuel. L'actrice ne voulait pourtant pas recourir à la justice. Alors une telle procédure est-elle utile? Oui, répond un avocat spécialisé, on l'entendra. À suivre également, des chômeurs en grève. Ils demandent à ce que l'expérimentation des territoires zéro chômeur soit rapidement étendue. Une chanteuse, une actrice, un footballeur qui s'engage pour demander la fin des ventes d'armes au Yémen et le début des mondiaux d'athlétisme handisport à Dubaï. Portrait d'un champion français aveugle et sprinter.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui le chanteur Philippe Catherine, journée spéciale sur Inter à l'occasion de la sortie de son nouvel album Confession.
France Inter.
Et on commence, Sébastien, avec cette question. Les lanceurs d'alerte sont-ils suffisamment protégés en France?
La réponse est non pour une trentaine d'ONG, de syndicats. CGT, CFDT, LDH, Anticor ou Greenpeace organisent aujourd'hui un meeting sur la question à Paris. Le collectif vient d'envoyer une lettre au président Macron pour lui demander de transcrire au plus vite la nouvelle directive européenne adoptée le mois dernier. Une directive qu'ils estiment plus protectrice que le droit français, à l'appui de leur demande et de leur démonstration, un sondage de la CGT que France Inter a donc pu consulter en exclusivité. Plus d'un tiers des cadres interrogés par Via Voice disent être témoins de pratiques illégales sans pour autant les dénoncer systématiquement, Claire Chaudière.
Ils sont 36% à affirmer avoir été témoins au travail de pratiques hors la loi ou contraires à l'intérêt général. Mais les dénoncer serait une opération bien trop risquée pour un cadre sondé sur deux. Risque que confirme Alexandre Berthelot, lanceur d'alerte dans une affaire de machine de prélèvement de plasma sanguin défectueuse. Ce responsable très haut placé dans l'entreprise en a perdu son emploi.
J'ai été extrêmement surpris d'être agressé, comme si j'avais découvert quelque chose que j'aurais jamais dû découvrir. Ça a été d'une grande violence. Quand vous voulez pas vous taire, vous êtes blacklisté. On y laisse complètement sa santé. Ça s'est terminé par une dépression sévère.
Alors avec la nouvelle directive européenne, les lanceurs d'alerte pourraient voir leur action portée désormais par un syndicat ou une ONG, une avancée cruciale qui doit être intégrée en l'état à la loi française, insiste Guilain Cabantou, qui est suivi de très près à la CGT, l'alerte sur les machines de prélèvement de plasma.
L'idée, c'est de sortir le lanceur d'alerte de l'isolement, d'éviter que le lanceur d'alerte soit ce héros seul à porter une alerte qui risque progressivement de les détruire.
Utilisation illégale de données informatiques, questions sanitaires sur des cosmétiques, autant d'exemples d'alerte sur des faits présumés aujourd'hui étouffés ou empêchés, explique les signataires de cet appel.
Claire Chaudière, près de la moitié des cadres interrogés disent aussi qu'ils jugent inefficace le dispositif d'alerte mis en place dans leur entreprise.
Il est 7h33, elle ne voulait pas porter plainte, mais la justice a décidé de s'autosaisir.
Le parquet de Paris a donc ouvert hier une enquête préliminaire pour agression sexuelle dans l'affaire de la comédienne Adèle Haenel qui accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'avoir commis sur elle des attouchements de l'âge de ses 12 ans jusqu'à ses 15 ans. L'une des questions au cœur de l'enquête, ce sera le délai de prescription. Les faits se sont déroulés de 2001 à 2004, mais quoi qu'il en soit, même si les faits sont prescrits, ces investigations judiciaires sont nécessaires. C'est ce que dit en tout cas cet avocat Jean-Yves Moyard. Il a défendu Sandrine Rousseau qui a accusé il y a quelques années Denis Baupin d'agression sexuelle. Les faits depuis ont été prescrits. Peu importe, dit cet avocat, l'enquête a tout de même permis de faire des vérifications et de prendre en compte la parole des femmes. Jean-Yves Moyard.
Du point de vue de la victime, si victime il y a, évidemment, ça permet d'abord de se réexprimer, d'essayer de se souvenir des dates, etc. Et donc de résoudre des problèmes qui sont très complexes de prescription. Deuxième intérêt, c'est d'obtenir du contradictoire. Il y a quand même la personne qui est mise en cause, qui s'exprimera et qui, elle aussi, a tout intérêt. Est-ce qu'il y a une enquête contradictoire avec des éléments à charge et à décharge, avec le moyen pour tout le monde de s'exprimer? C'était très vrai dans l'affaire Rousseau. Il y avait eu un classement sans suite, certes pour cause de prescription au final, mais qui avait aussi dit que s'il n'y avait pas eu cette règle de la prescription, il y aurait probablement eu un procès parce qu'il y avait suffisamment d'éléments permettant un débat.
Et ça, c'est important à entendre pour votre cliente.
Bien sûr, ça dit « je ne suis pas folle », ça dit « je ne suis pas toute seule », ça dit « je ne dis pas n'importe quoi ». La justice peut apporter beaucoup d'éléments aux deux parties.
L'avocat Jean-Yves Moyer avec Corinne Audouin. Christophe Ruggia, de son côté, a réagi hier par la voix de son avocat. Il a reconnu l'erreur, je cite, d'avoir joué avec elle les Pygmalions, mais réfuté toute forme de violence sexuelle. Traquer les fraudeurs fiscaux grâce à leurs traces numériques laissées sur les réseaux sociaux comme Facebook. Cet article de loi très critiqué par la CNIL notamment, car potentiellement liberticide, embarrasse la majorité. Le texte a été finalement édulcoré hier en commission des finances et ne concernera plus que les délits majeurs comme la contrebande ou les activités occultes. C'est un mouvement social très atypique qui aura lieu aujourd'hui. Des chômeurs en grève. Il s'agit en réalité des chômeurs concernés par ce qu'on appelle les territoires zéro chômeur, ces territoires expérimentaux où l'argent normalement destiné aux chômeurs de longue durée, le RSA, la CMU, est réutilisé, redirigé pour créer de vrais emplois. 10 territoires se sont ainsi lancés il y a 3 ans, une expérimentation que le gouvernement avait promis d'élargir, mais ça bloque depuis des mois. La deuxième loi d'expérimentation n'est toujours pas programmée, au grand désespoir de certaines communes qui sont prêtes. Exemple à Castillon-la-Bataille, près de Saint-Émilion en Gironde, 3200 habitants et 25% de chômage. Hélène Philly s'y est rendue.
À Castillon-la-Bataille, la grève du chômage se prépare.
Ça va aller très vite.
Audrey Vendrame est chargée du projet Territoire Zéro Chômeur et aujourd'hui, elle embarque quelques demandeurs d'emploi pour récupérer des palettes qui serviront à un atelier de création de mobilier.
Quand on se regroupe avec les demandeurs d'emploi, c'est une des premières idées qui leur est venue à l'esprit de faire du compostage ou des ruches ou du mobilier avec des palettes. Donc,
allez,
on peut partir. Toutes les prendre, sauf celle où il y a un point rouge.
Alors on va là.
Castillon attend d'intégrer l'expérimentation zéro chômeur depuis 3 ans. Les 300 bénéficiaires potentiels sont identifiés, les activités trouvées. Dominique est au chômage depuis plus de 10 ans. Il voudrait ouvrir une conserverie et il s'impatiente.
Moi je trouve que ça traîne un peu trop. Pauvreté des conneries, ils sont bons. Ça traîne pas, mais pauvreté des trucs utiles. Mais ça traîne.
On n'en peut plus d'être prêt.
Le maire Jacques Breillat.
C'est un très beau dispositif qui, au-delà des évaluations en cours, qui sont sans doute des évaluations très comptables, je ne doute pas qu'on sache compter dans ce pays, doivent prendre en compte ce bien-être collectif et cette plus-value collective qui est présente dans l'expérimentation.
Le calendrier ne sera pas fixé avant la remise de ces 2 rapports d'évaluation dans les prochains jours.
Hélène Philly, comme chaque année avant Noël, Amazon fait savoir qu'il recrute 9000 emplois saisonniers en France à pourvoir avant les fêtes de fin d'année, préparation, expédition de commandes. Beaucoup d'emplois temporaires, bien sûr, mais qui, pour certains, promet le géant américain, pourrait se transformer en CDI. L'actualité économique, c'est bien sûr l'ouverture du capital de la Française des Jeux aux petits et grands investisseurs. Acheter des actions FDJ, ce sera possible à compter de ce matin. L'action coûtera entre 16,50 € et 19,90 €.
Il est 7h37, plusieurs personnalités s'engagent en faveur du Yémen.
Le Yémen, où depuis 4 ans une terrible guerre oppose une coalition emmenée par l'Arabie Saoudite aux rebelles Houthis soutenus par l'Iran. 60 000 morts, 20 millions de personnes qui souffrent de la famine. C'est pour tenter de sensibiliser l'opinion publique à ce drame que plusieurs ONG ont réalisé un spot bouleversant. On y voit Annie Lennox, la chanteuse de Rhythmix, l'ancien footballeur Vikash Dorasso, la comédienne Catherine Deneuve ou encore l'humoriste Sophia Aram demander la fin des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et raconter l'histoire d'une fillette victime du conflit. Valérie Crova.
Elle serre contre elle un gros ours en peluche. Alanou, de 4 ans, explique qu'une bombe a tué son père, sa mère, ses 2 frères et son oncle. Elle est entourée d'un monticule de gravats. C'était sa maison, avant qu'elle ne soit bombardée en 2017. Face caméra, l'un des acteurs de Game of Thrones, Charles Dance, explique.
Dans tout le Yémen, des armes de fabrication britannique tuent des civils.
Des armes de fabrication française.
Des armes fabriquées aux États-Unis.
Ce petit film a été réalisé à la demande de 8 ONG, dont Médecins du Monde, Aurélie Leroyer, responsable du programme Yémen.
On veut à la fois alerter les parlementaires, mais aussi l'opinion publique. C'est là où l'histoire de cette petite fille, on espère, va vraiment toucher les personnes et faire que les gens vont se mobiliser, alerter leurs députés pour demander qu'il y ait plus de transparence dans le contrôle des ventes d'armes.
Depuis 2016, 12 pays européens ont suspendu leur vente d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Syriad constitue l'un des plus gros clients de la France. Paris se défend de vendre des armes utilisées pour commettre des crimes de guerre. Une procédure est en cours devant le Conseil d'État pour obtenir la suspension des exportations d'armes françaises vers les pays de la coalition.
Valérie Crova, c'était prévu. L'Iran a repris ses activités cette nuit d'enrichissement d'uranium à l'usine souterraine de Fordo. Elle marque la quatrième phase du plan de réduction des engagements iraniens lancé en mai en riposte au retrait unilatéral américain de l'accord nucléaire iranien. Ils vivent à plusieurs dans des tentes en bordure du périphérique parisien près de la porte de la chapelle, des campements insalubres qui sont en cours de démantèlement. L'opération a commencé ce matin. 600 policiers sont mobilisés. Nous serons sur place en direct dans le journal de 8h. On termine avec un portrait de sportif atypique, un sprinteur aveugle qui va participer aux mondiaux d'athlétisme à Dubaï, les mondiaux handisport qui commencent aujourd'hui. Il s'appelle Timothée Adolphe, sprinteur recordman d'Europe du 100 mètres, double médaillé mondial. Ce champion malvoyant est aussi un artiste. Il vient de sortir un single et prépare un spectacle seul en scène. Adèle Belmoumri.
À l'INSEP, Timothée Adolphe, accompagné de son chien guide, Japlou, évoque son premier single, Olympe, sorti fin septembre. En duo avec le chanteur Hector Arthur, le sprinteur paralympique rappe un nouvel hymne à la détermination. Si les portes
se referment, je passe par la fenêtre. Moi, je suis venu au rap par l'écriture et du coup, le message, il a une valeur quand même qui est très importante. Mon objectif, moi, c'est de donner un peu du smile aux gens. Si ça peut rebooster quelqu'un, le son, il est réussi.
Après la musique, le one-man show prévu fin 2020, le guépard blanc de son surnom espère sensibiliser et donner, je cite, des clés aux gens qui ne savent pas faire face à certains types de handicap.
Je me suis dit que l'humour, ça pouvait être aussi un vecteur pour transmettre certains messages, notamment par rapport au handicap, par l'autodérision ou le biais de l'humour. Ça passe beaucoup mieux, et surtout quand c'est un bigleux qui se fout la gueule de soi et des autres bigleux, bah, ça passe encore mieux.
Alors Timothée Adolphe, l'entertainer, l'artiste aux multiples casquettes.
Ouais, on peut dire ça. Moi, j'aime bien toucher à tout. Je suis quelqu'un de hyper curieux. Je me donne pas de limites, tout simplement.
Après le traumatisme des disqualifications aux 200 et 400 mètres à Londres il y a 2 ans, le sprinteur français a sûr, il a soif de revanche.
Voilà, le chanteur sprinteur aveugle Timothée Adolphe entrera en lice à partir de dimanche aux mondiaux d'athlétisme handisport de Dubaï.
Merci Sébastien Legénie.